Europe 1.
Le journal de 6h, présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. De la farine, du sel, de l'eau, de la levure et, ah oui, le savoir-faire français. La recette de notre baguette de pain, désormais inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. 250 grammes, emblème de la French tradition. Tous les jours, nous sommes près de 12 millions à acheter ce morceau de pain, le plus consommé dans le pays. Une récompense saluée jusqu'aux États-Unis par un ambassadeur de choix, Emmanuel Macron, hier soir à Washington face à la communauté française.
Je m'exprime devant vous aujourd'hui dans un moment très important, celui où notre baguette a été reconnue patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et je veux dire ici que dans ces quelques centimètres de savoir-faire passés de main en main, il y a exactement l'esprit du savoir-faire français. Parce qu'on ne compte pas ses jours et ses nuits, on a un produit qui est inimitable. Beaucoup ont essayé de le faire, ils ont fait un truc industriel qui n'a pas de goût. Parce que c'est inimitable la baguette française. Donc félicitations à notre baguette pour aujourd'hui.
Emmanuel Macron sous les applaudissements de la communauté française hier soir à Washington.
Une baguette bien croustillante, et bien voilà, qui pourrait accompagner à merveille le menu de gala qui sera servi ce soir à la Maison Blanche. Fromage américain et homard au menu pour 200 invités triés sur le volet.
Oui, fromage américain, vous avez bien entendu. Joe Biden et Emmanuel Macron, oui, ça existe et il paraît qu'il y en a des très bons. À la table d'honneur, il y aura donc Joe Biden et Emmanuel Macron. Le président français poursuit sa visite d'État. Entretien privé entre les deux présidents ce matin, suivi d'une conférence de presse conjointe. Hier, Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots contre le plan anti-inflation américain. Des mesures super agressives, je cite, qui pourraient tuer beaucoup d'emplois en Europe.
Le président français qui a tout de même offert un petit cadeau à Joe Biden hier.
Parlait de tradition française, alors non, ce n'est pas une baguette, mais plutôt le vinyle de la bande originale d'Un homme et une femme, film de 1966 réalisé par Claude Lelouch, qui fait d'ailleurs partie de la délégation française qui accompagne Emmanuel Macron aux États-Unis jusqu'à demain.
Il est 6h02 sur Europe 1, la journée mondiale de lutte contre le sida. 5000 nouveaux malades chaque année en France, Roman.
Alors pourra-t-on un jour se protéger contre cette maladie? Une étape cruciale vient d'être franchie avec un vaccin aux essais concluants, peut-être l'aboutissement de 10 ans de recherche pour le laboratoire français Biotech Linkivax. Yasmina Katou.
72 volontaires ont reçu 3 doses de ce vaccin contre le VIH et les systèmes immunitaires des participants ont tous réagi, ce qui montre un effet protecteur contre le virus, une étape cruciale pour le professeur d'immunologie Yves Lévy, le directeur de l'Institut de recherche vaccinale rattaché à l'INSERM, explique la technologie innovante utilisée pour créer ce sérum.
On a développé une technologie qui permet d'amener directement le vaccin à ces cellules dendritiques. C'est celles que l'on espère toujours toucher quand on injecte un vaccin par voie intramusculaire. Et bien là, au lieu de laisser le hasard faire les choses, on amène directement le vaccin à la surface de ces cellules pour les stimuler et accélérer l'induction de la réponse immunitaire.
Des essais sur les personnes à risque doivent être réalisés, travailleurs du sexe ou encore homosexuels. Les premiers résultats seront connus d'ici 2 à 3 ans. Le professeur Yves Lévy espère réduire le risque d'infection de moitié grâce au vaccin. Une première étape pour casser l'épidémie de VIH en France et dans le monde.
Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe. 6h04, une première journée marathon au procès des attentats de Bruxelles. 12 heures d'audience pour désigner le jury. 36 personnes qui devront juger les attaques de 2016.
32 morts, plus de 300 blessés après des explosions à l'aéroport et dans le métro de la capitale belge. Les débats commenceront lundi.
Oui, un procès qui doit durer jusqu'au printemps, de longs mois pour juger 8 personnes accusées de crimes terroristes, la même cellule qu'à Paris en novembre 2015. Laura Van Lerberg, vous suivez ce procès pour Europe 1 et dans le box des accusés, il y a un visage familier, celui de Salah Abdeslam.
Oui, le djihadiste français est apparu barbe fournie, habillé d'un jean et d'un pull noir. À la demande de la présidente de la cour, il a sobrement décliné son identité, se présentant comme un électromécanicien âgé de 33 ans. Un changement de stratégie de communication par rapport au procès de Paris, où il revendiquait le titre de soldat de l'État islamique. Un signe peut-être encourageant quant à l'attitude qu'il adoptera au cours de ce procès. Entouré de 2 policiers cagoulés, il siège aux côtés de 7 autres accusés dans un boxe commun. 12 heures de présence dans une salle à l'ambiance pesante. Certains citoyens sont émus en voyant les accusés, d'autres sont soulagés. Le procès peut enfin commencer. Une émotion qui va durer. Les débats de ce procès pourraient se prolonger 6 à 9 mois. Bruxelles, Laura Vanlerberg pour Europe 1.
Nous partons maintenant à Marseille. Marseille où les burgers ont une saveur particulière, celle de la revanche.
Et oui, dans les quartiers nord de la ville, d'anciens salariés de McDonald's ont gagné leur bras de fer face aux géants de la restauration rapide. À la place de l'enseigne américaine, ils vont ouvrir samedi leur propre banque alimentaire. C'est la mairie qui a racheté le terrain pour éviter la démolition. Un fast-food social au nom évocateur. L'après-M, une renaissance racontée par le correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat.
3 ans plus tard, la vie reprend dans les cuisines et le cœur de Kamel Guémari, l'ancien salarié, palpite au moment de signer les tout premiers contrats de travail.
C'est symbolique pour nous, c'est un honneur. Je me dis que, waouh, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Un travail, ça doit être un droit, ça doit pas être un rêve.
23 salariés pour commencer, 50 d'ici janvier, encadrés par les anciens de ce McDonald's qui vont garder leur casquette de bénévole dans un premier temps, car il s'agit bien d'un projet d'insertion, un coup de pouce pour des habitants de quartiers défavorisés comme Ahmed.
Avant, j'étais livreur coursier et maintenant, je fais des sandwichs. C'est de participer au projet en fait, c'est quelque chose de bien, donc du coup on est bien nous aussi.
D'où l'étiquette Fast Social Food revendiquée par Fatih Boiroy, car les bénéfices du restaurant iront à l'activité de banque alimentaire qui se poursuit à l'arrière du parking.
Ça c'est structuré, on a fabriqué toutes les structures que vous voyez. Notre village d'entraide qui est composé pour l'instant d'un gros conteneur réfrigéré, 2 conteneurs pour faire les réserves.
Et près de 500 personnes bénéficient chaque semaine de ces colis alimentaires. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
6h07, on bouscule les habitudes, on peut le dire, sur le Tour de France. En 2024, pas d'arrivée des cyclistes sur les Champs-Elysées.
Et non, car c'est à Nice qu'ils franchiront la ligne d'arrivée. Johan Tritz, un changement de parcours lié à l'organisation des Jeux Olympiques ?
Oui, puisqu'à quelques jours du début des Jeux 2024, Paris sera à ce moment-là bien occupé par leur organisation. C'était donc mission impossible de pouvoir finir ce Tour de France dans la capitale qui, depuis 1905, accueille le dernier jour de course de la Grande Boucle. Christian Prudhomme, le directeur du Tour, se tourne donc vers la ville de Nice car il a une dette envers la cité azuréenne. Elle avait donné le grand départ en 2020, année bouleversée par le Covid. L'édition s'était lancée au mois de septembre et sans public. Le manque a gagné. Important pour la ville niçoise à l'époque sera sans doute largement compensé par cette arrivée historique. La célèbre promenade des Anglais servira donc de ligne droite finale aux coureurs le 21 juillet 2024. Une conférence de presse est prévue aujourd'hui avec Christian Estrosi, le maire de Nice, et Christian Prudhomme pour annoncer la nouvelle. Le grand départ, lui, devrait être donné de Florence en Italie et pour une troisième fois de suite en dehors de la France. Là aussi, une première.
Johan Tritz.
La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, c'est dans Europe Matin.
Et c'est la Pologne qui fera face à la France pour les 8e de finale dimanche à 16h. Un adversaire que les Bleus n'ont pas croisé depuis 2011 quand même. Les Polonais qui terminent 2e de leur groupe après leur défaite hier soir face à l'Argentine.
Et ce soir, Romain, 2 équipes au pied du mur.
Oui, d'abord la Belgique qui joue contre la Croatie, excusez du peu, vice-championne du monde en 2018. Les Diables Rouges n'ont donc qu'une seule option, la victoire pour espérer une qualification. Et encore, c'est même pas certain. Même scénario pour les Allemands qui affrontent le Costa Rica à 20h. Un match décisif arbitré par la Française Stéphane. Fanny Frappard, première femme arbitre pour un match de Coupe du Monde masculin.
C'était le journal de 6h sur Europe 1. Merci Romain Noquet.